Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. Léon Gauthier, Paul Brillat, peut-être des noms qui ne vous disent peut-être rien. Mais après avoir lu le livre dont nous allons parler aujourd'hui, vous connaîtrez leurs histoires, leur vie, leurs engagements. Nous sommes le 6 juin 1944 et 177 hommes du commando Kieffer vont débarquer sur les plages de Normandie. C'est un commando hors pair de jeunes gens engagés, entraînés. Pour nous parler de ce livre, un docteur en histoire, Christophe Simonet. Nous allons également parler des Français dans le débarquement, également un très beau livre, totalement bien illustré et haut en couleur, et surtout avec des textes et des explications. Le livre sur le commando Kieffer nous parle de ces hommes avec moult détails, et surtout sur leur vie. C'est émouvant, c'est intéressant. Bonjour Christophe Simonet.
Bonjour. Alors, je m'appelle Stéphane Simonet.
Oh, mais décidément. Alors,
c'est
Stéphane Simonet. Voilà, oui, pardon, oui. Excusez-moi. Donc, Stéphane Simonet, je disais, vous êtes docteur en histoire. Vous êtes rattaché également au mémorial de Caen. Parlez-nous un petit peu de votre activité et de vous. Ça nous intéresse.
Alors, effectivement, j'ai été rattaché au mémorial de Caen pendant 15 années. Donc, j'en suis parti maintenant il y a 4 ou 5 ans, et je suis chercheur associé à l'Université de Caen. Donc, je suis toujours à Caen, dans la recherche historique. Et en fait, c'est dans le cadre de mes activités au Mémorial de Caen, comme directeur scientifique, que je me suis intéressé, il y a maintenant presque 15 ans, à ces hommes du commando Kieffer que personne ne connaissait vraiment. Et donc, j'ai commencé à les interviewer les uns après les autres, en tout cas, tous ceux que j'ai pu rencontrer, tous les survivants de ce groupe. Et en 2001, lorsque j'ai commencé l'enquête, il y en avait une trentaine.
Oui.
Et donc, j'ai commencé ce travail directement auprès de ceux qui avaient des choses à raconter, de ces vétérans, de ces jeunes vétérans, parce qu'à l'époque, ils avaient 80 ans,
et
au moins 95.
Oui.
Donc, ce travail sur Kieffer a commencé à ce moment-là, à partir de cette enquête que j'ai menée entre 2001 et 2004 en France.
Alors, c'est un commando de 177 hommes, du commando Kieffer. Alors, il en reste, je crois, 3 ou 4 vivants aujourd'hui, dont Léon Gauthier, qui a été honoré par le président Macron lors des dernières cérémonies du 6 juin de cette
exactement,
année.
Exactement, on l'a vu, hein, il a été très très honoré, très mis en avant par
très ému
par
aussi.
Macron, très ému
il
également.
Il a remercié, il a dit c'est gentil d'être venu.
C'est ça, oui, ça c'est tout Léon Gauthier, une simplicité, d'une humilité surtout.
Oui, oui.
Et en fait, comme vous le dites, oui, exactement, il reste trois hommes du commando Kieffer, donc il y a Léon Gauthier, donc il a 97 ans et qui habite effectivement à Ouistreham,
juste à côté,
en Normandie, à 200 mètres de l'endroit où il est débarqué
tout
il y a 75 ans, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Oui, ils ont libéré le casino de Ouistreham.
Voilà, il habite juste à côté.
Oui.
Et puis on a ces deux copains en fait qui sont toujours là, donc Jean Morel qui a aussi le même âge que Léon Gauthier, qui a
97 ans,
qui est à Saint-Malo.
Oui.
Et puis on a le plus âgé, le plus ancien, Hubert Faure, qui habite à Paris, qui a 105 ans.
105 ans.
Et en 14. Donc, ce sont les trois derniers survivants des 177 Français.
Oui. Vous savez, ce qui m'a étonnée dans ce livre, la moyenne d'âge du commando, on va dire 20, 21, 24 ans, en moyenne. Hein, c'est vraiment la moyenne. Et ces trois survivants, je me suis dit, mais ils sont quand même costauds parce que ça n'a pas été une vie facile. Ils se sont durement entraînés. Ils ont vécu des choses pas très faciles. Ils ont vu mourir leurs camarades. Et ils ont résisté. Ils ont résisté 75 ans. Et quand on a vu Léon Gauthier, il a quand même encore une verve. Il est droit comme un i, plein de dignité. Ils étaient forts moralement et physiquement, ces hommes-là.
Oui, ils étaient déjà, et puis très courageux surtout, parce que déjà, il fallait déjà s'arracher au cocon familial en 40.
Ah oui, les frères, les sœurs, les parents, vous rendez compte.
Voilà, il fallait donc la plupart ne sont pas tous posés de questions, ils ont quitté une vie confortable, certes, devant l'occupation allemande, et ils ont cherché à rejoindre Londres, mais pour la plupart de ces gens-là, ils n'avaient jamais voyagé, ils n'avaient jamais quitté leur village natal, donc la plupart, effectivement, ils ont eu des périples incroyables pour rejoindre l'Angleterre, les rangs du général de Gaulle. Et puis, comme vous le dites, effectivement, ils sont passés par toutes les épreuves, de rejoindre Londres, qui n'est pas une partie gagnée pour tout le monde, certains ont mis plusieurs mois, voire plusieurs années, et puis de s'entraîner durement avec comme des Britanniques. Hein, les Britanniques qui les encadrent n'ont pas fait de différence. Ils ont vraiment fait les mêmes entraînements que les Britanniques dans les très très durs camps d'entraînement d'Écosse.
Oui.
Et donc, lorsqu'ils arrivent en Normandie le 6 juin, ils sont surentraînés. Ils sont surentraînés avec cette excitation quand même ultime de débarquer chez eux, quoi, et de refouler les Allemands.
C'est incroyable. Dans
leur sol. Et donc ça les a vraiment animés pendant toute la guerre jusqu'au débarquement. Et après, je vous le dis aussi, ils ont fait cette guerre qui est dans leur vie une parenthèse. Hein, beaucoup le disent. Hein, nous, on s'est engagés, on était volontaires. Après la guerre, on a repris nos vies d'avant, on a retrouvé nos familles.
C'est ça qui est incroyable.
Et ça fait et tous ces gens-là en fait se retrouvent dans les années 85-90 dans une association, mais pendant tout ce laps de temps entre 45 et 85, il se passe rien. Ils ont pris leur vie, ils travaillent, ils ont des familles, et puis ils ont un peu voilà.
Ils n'ont pas raconté. Ils ne se sont pas racontés. Non.
Voilà. Mmh. Et c'est vrai que moi, lorsque j'arrive en 2001 avec mon micro, ben, je suis un des tout premiers à m'intéresser à leur parole.
Oui. Oui, oui. Alors, le commando Kiefer, très connu. Aujourd'hui, l'héritier de ce commando Kiefer, c'est le commando Hubert, pourrait-on dire, dont on a entendu parler ces dernières semaines, puisque deux d'entre eux sont morts au Burkina Faso pour libérer des otages. Alors, parlons aussi du commandant Kiefer, parce que c'est aussi un homme hors pair, aussi.
Ben voilà, lui, sans lui, cette unité française n'aurait
jamais existé.
Bien évidemment, donc Philippe Kiefer, effectivement, lui, c'est pareil. Hein, c'est un homme qui vivait une vie confortable de banquier à Port-au-Prince, à Haïti, avec sa femme et son enfant.
Une vie bien rangée.
Un homme déjà d'une quarantaine d'années.
Oui, oui.
Et il se porte volontaire en 1939 pour intégrer l'armée française. Et donc, il plaque tout quasiment. Il quitte son île natale. Il se sépare de sa femme. Le couple fonctionnait moyennement plusieurs mois.
Oui.
Et donc, c'est quelqu'un qui est disponible, du coup, pour intégrer l'armée française. Donc, qu'il rallie donc en septembre 39. Vous voyez, avant même la mobilisation générale, il rentre dans l'armée de terre. Donc, c'est un homme âgé qui a 40 ans. Âgé pour l'époque.
Parce que les autres ont une vingtaine d'années, donc il a 20 ans de plus.
Ça.
Et puis 40 ans, il y a 75 ans. Aujourd'hui, c'est très jeune. Il y a 75 ans, c'était...
Voilà, ouais.
C'est vrai.
Et donc, exactement. Et donc, il n'a aucune expérience militaire. Donc, c'est un banquier. Et donc, il arrive, il se met au service de l'armée française. Et très vite, il est versé dans la marine. Donc, il est un marin. Et il va donc, effectivement, rallier l'Angleterre donc en juin 40 avec beaucoup de Français...
Pour la France libre, le général de Gaulle.
Il est un des tout premiers à rallier le général de Gaulle en juillet 40.
Oui.
Et là, on le voit arriver, c'est le plus vieux marin à pompon rouge de la marine française. Et donc, alors, sa grande force, c'est qu'il parle plusieurs langues, notamment l'anglais, parfaitement bien.
Oui, polyglotte.
Donc, il va devenir interprète dans une base militaire à Portsmouth. Et donc là, il va faire le lien entre l'amirauté britannique et les forces navales françaises libres en train de se constituer donc, à Portsmouth et en Angleterre. Et donc, sa grande force, ça va être là d'être au bon moment, au bon endroit. Et donc, il va avoir cette idée, à partir de 41, donc de former une compagnie de commandos français qui, pourquoi pas, un jour pourrait venir débarquer en France, occuper. Donc, ça, c'est son grand rêve. Et donc, il s'en ouvre auprès de son amiral, l'amiral Muselier, qui est le patron des forces navales françaises libres, avec De Gaulle. Et puis, il arrive aussi à convaincre le commandement britannique. Et donc, il a un feu vert, en fait, on lui donne le feu vert à la fin de l'année 41. Début 42 pour commencer à recruter des volontaires qui seraient des futurs commandos. Voilà un peu comment c'est Philippe Kiefer qui est parti de Port-au-Prince
et
en
42. C'est incroyable.
Devient un chef de guerre.
Mais ils ont tous un destin. Certains ont franchi les Pyrénées. Enfin, ils ont tous des histoires très très particulières. Hein, puis au niveau de l'entraînement aussi. Enfin, voilà, les lecteurs découvriront cela. Alors, 6 juin 44, ils débarquent à Overlord. Ce sont les premiers Français qui foule le sol normand pour la libération.
Voilà, on les fait débarquer comme s'ils sont français. Les Britanniques leur laissent débarquer 2-3 minutes avant tout le monde.
Oui.
Donc, c'est effectivement la seule force française terrestre donc, qui foule le sol normand, donc le 6 juin, vers 7h30 du matin.
À Ouistreham.
À Colville.
Colville,
loin,
oui.
Donc, de Colville, ils vont effectivement
à Ouistreham. Oui.
Et derrière, effectivement, les vagues d'assaut arrivent juste derrière, mais de manière symbolique. Alors, on les fait débarquer en premier. N'oublions pas quand même, malgré tout, quelques minutes avant eux, des sapeurs du génie britannique sont là avec leurs chars pour déminer un peu la plage. Mais les premiers combattants, donc fusils à la main qui débarquent, ce sont les Français, bon, toujours là. Mmh. Et donc, il y en a, donc ils sont répartis en deux bateaux différents, qui ont traversé la Manche dans la nuit du 5 au 6. Oui. Donc, à 7h30, ils débarquent.
Avec les conditions météo que l'on connaît. Hein, dont on
voilà. Il faut savoir que la plupart ont voyagé dans des conditions de confort vraiment très
rudimentaires.
Très ce sont oui. des barges à fond plat. Oui. La mer est démontée. Donc, beaucoup débarquent en ayant été malade toute la nuit, par oui. exemple.
Et on n'y voit rien. Et on n'y voit rien.
Et on n'y voit rien, voilà. Et les Allemands sont là à les attendre. Donc, et ils oui. se prennent quand même de plein fouet la riposte allemande. Et c'est pour cette raison-là, particulièrement, que ces Français vont avoir dû tuer dans les premières minutes du 6 juin, donc à Ouistreham et à Colville-sur-Orne, dû tuer dans les premières minutes du débarquement. Donc, ce qui est important donc, pour une troupe de 177 hommes, oui. tuer d'un seul coup. Et donc, la plupart sont tués en sortant des barges. Donc.
Ah oui, c'est quand même. Ça... C'est terrible hein, de l'imaginer, c'est terrible. Hein.
Oui. Oui, des hommes qui sont préparés des années, qui oui. sont entraînés et qui...
Ils ne peuvent même pas avancer, et ils mettent le pied et c'est terminé, c'est ça qui est...
Exactement, voilà. Oui. voilà.
Pour le commandant Kiefer aussi, qui a entraîné ces hommes, qui les connaît, ça doit être dur. Alors sur le moment, il n'a peut-être pas le temps de penser à ça.
Voilà,
mais ça doit être dur
voilà.
quand même. Ça doit être
il n'a pas le temps parce que effectivement, les consignes qu'on leur donne, c'est de débarquer, de courir oui. sur la plage, de ne jamais s'arrêter, même si un camarade tombe. Voilà.
Et, on les laisse sur la plage parce qu'on ne peut pas faire autrement.
Exactement, et après ils se regroupent 20 minutes plus tard dans une ancienne colonie de vacances en ruine, et là ils commencent à se compter, et ils voient qu'il en manque quelques-uns, et puis il y a beaucoup de blessés également,
oui,
il y a 33
aussi.
Blessés qui sont évacués donc, sur, oui. la, sur, sur l'Angleterre, ce oui. jour-là.
Et ils arrivent à prendre le casino de Ouistreham.
Alors la mission qu'on leur donne, effectivement, c'est de s'emparer de ce qui reste du casino de Ouistreham, qui était un bel établissement de jeu dans une oui. architecture un peu normande. Et oui. donc les Allemands ont rasé le casino à partir de 1943 et n'ont gardé que le soubassement bétonné qu'ils ont fortifié.
Mmh. Et, comme un bunker, en fait.
C'est un bunker.
C'est un bunker.
Et donc on leur oui. confie cette mission délicate de s'emparer de ce bunker.
Mmh.
Mais c'est pas la seule mission du 6 juin. Donc ils ont trois missions cette journée-là. Il y a la prise du casino.
Oui.
Il y a très rapidement d'aller faire la jonction avec les troupes parachutistes britanniques qui ont sauté dans la nuit
oui.
sur le fameux Pegasus Bridge.
Pegasus, donc, voilà, le pont de Pegasus, voilà. oui. Je conseille Pegasus. À chacun d'aller à Ouistreham et d'aller voir parce que c'est toujours très intéressant.
Ah oui, oui. c'est un lieu mythique.
Hein. Oui, oui.
Et après, oui. une fois qu'ils ont fait la jonction avec les parachutistes britanniques, d'aller le plus loin dans les terres en allant vers Cabourg et donc d'essayer d'élargir au maximum la tête de pont britannique. Et puis donc là, ils vont s'installer dans un village en Fréville, donc en fin de journée du 6 juin. Donc ils ont quand même une journée assez harassante. Et c'est là, à la fin de cette journée du 6 juin, que Kiefer peut compter effectivement ses hommes. Hein. Il a perdu quasiment une quarantaine d'hommes.
Ouais, quarantaine d'hommes sur 176.
Voilà, exactement. Donc c'est un quart de la troupe qui manque à l'appel.
Et oui.
Donc voilà la journée du 6 juin avec ce coup d'éclat, effectivement, qui est la prise du casino d'Ouistreham, qui a été l'objectif numéro un pour ces Français.
Et qui a beaucoup aidé les autres forces en place. Ils ont ouvert une brèche.
Ils ont ouvert la brèche, voilà, ouais. Et puis il fallait, et surtout n'oublions pas que les Français débarquent, alors le débarquement se fait sur 70 km de plage,
oui, hein, oui,
ils
oui.
habitent jusqu'à ce soir, les Français sont au bout du bout, ils sont oui, sur l'extrémité est du dispositif, et donc eux, ils doivent tenir le verrou, quoi. Ils doivent vraiment empêcher tous les renforts allemands de venir sur cette zone. Et le casino d'Ouistreham, effectivement, c'est une forteresse. Là, on s'en rend un peu moins compte à Ouistreham parce que ça a été beaucoup chamboulé, recouvert par les dunes, mais c'était le point fortifié le plus important de ce secteur du débarquement.
Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est un endroit assez particulier, Ouistreham, encore aujourd'hui. Ça m'arrive d'y aller parfois. Voilà, comme loisir, comme beaucoup de Français, c'est un endroit je trouve très particulier. Il y a toujours une ambiance, je sais pas, c'est à la fois gai, mais il y a toujours quelque chose. Vous savez, en fait, sur les plages normandes, il y a toujours quelque chose qui plane entre Utea, Omaha, toutes ces plages, Colville, les plages de Saint-Laurent. Il y a toujours quelque chose qui plane. Il y a toujours une ambiance.
Oui, oui, oui. Hein. Ah oui, c'est particulier. Hein,
c'est très particulier. Oui, oui.
Ouais, ouais.
Et pour tous les Français qui ont fait certainement le D-Day là, ces derniers jours. Il y a un monde fou et les gens se sentent concernés par ça, c'est quand même incroyable. 75 ans après, les gens aujourd'hui le vivent
ah oui,
de manière
vraiment
émouvante.
Il y a eu un engouement là pour les cérémonies du 75e qu'on n'avait pas connu depuis quand même lors des grands anniversaires tous les 10 ans. ça s'est vraiment ressenti cette année particulièrement. Donc, bien évidemment, il y a la présence des vétérans qui sont de plus en plus rares et qui attirent énormément de monde. Il faut savoir qu'en il y a 5 ans, il y avait 2000 vétérans qui étaient venus en Normandie, toutes nations confondues, 2000 vétérans. Là, il y avait 480 vétérans qui sont venus 5 ans plus tard.
Bah, il y en a donc, beaucoup qui ont disparu entre-temps.
Ben voilà. Donc voilà, donc c'est.
Il ne faut pas oublier qu'ils abordent tous quasiment à la centaine. Hein. Ils ont entre 95, les plus jeunes, ils avaient 18 ou 20 ans, 75 ans plus tard, ils sont presque tous centenaires. Donc,
ils sont plus centenaires, exactement.
Dans 5 ans, il en restera certainement peu ou pas.
Peu ou pas, exactement. Donc, c'est ce que tout le monde s'est dit, c'est le dernier grand anniversaire où on pourra fréquenter des vétérans, les côtôyer et les remercier surtout pour ce qu'ils ont fait.
Tout à fait. Alors, vous, dans votre... Et ensuite, on va parler du second livre, mais dans votre rencontre avec ces hommes du commando Kiefer, à titre personnel, c'était quelque chose d'émouvant. Est-ce que vous avez eu le sentiment de toucher du doigt un point d'histoire important parce que sans tout cela, on ne serait pas là. C'est ce qu'on se dit souvent. Est-ce qu'ils ont conscience que ce qu'ils ont fait nous a permis aujourd'hui d'être libres?
Oui, certains d'entre eux l'ont dit à plusieurs reprises, effectivement. Alors, ils sont conscients d'avoir fait des choses assez ordinaires, comme d'autres combattants. Donc, quand je suis allé les voir, en fait, ils ne comprenaient pas ma démarche. Ils ne comprenaient pas ce que leur témoignage pourrait apporter à la grande histoire. La plupart n'avaient jamais témoigné.
Bien sûr.
Ils voyaient un jeune historien à l'époque venir vers eux, leur poser des questions sur des choses assez anciennes. Et ils ne voyaient pas ce que ça pouvait apporter de plus à la connaissance du débarquement. Et en fait, la plupart n'avaient jamais témoigné. Mm-hmm. Et ce qui était assez amusant, c'est que la plupart n'avaient jamais témoigné, même au sein du cercle familial. C'est-à-dire que lorsque moi j'allais les voir, souvent à la même table, j'avais le vétéran, mais aussi les enfants ou l'épouse qui n'avaient jamais entendu l'histoire dans la totalité.
C'est incroyable.
Donc il y avait une espèce de témoignage, de transmission qui s'est faite à ce moment-là. Et donc là, je suis ravi d'avoir fait ce travail-là. Oui. Et effectivement, tous ont reconnu avoir participé quand même à la libération de la Normandie et de la France et d'avoir effectivement mis un terme à cette occupation.
Mais ce qui en font des héros, c'est cette humilité, cette sagesse de ne pas vouloir en parler parce que conscients certainement de ce qu'ils ont fait, de l'utilité de leurs actes, mais garder cette humilité, c'est ce qui en fait des héros aussi, finalement. Simplicité, cette humilité.
Exactement. Ce sont des hommes ordinaires. Hein,
tout à fait.
La plupart étaient beaucoup étaient célibataires. Corps de métier, tout horizon social. Oui. Il y a des grands bourgeois, il y a des apprentis, il y a des gens au chômage.
Des ouvriers,
Il y a des ouvriers, il y a des gens mariés, d'autres pas. Et donc, ils ont tous... Voilà, c'est en fait une France un peu rassemblée dans ce commando, une France des quatre horizons. Quoi.
Tout à fait,
Et effectivement, avec des gens très, très jeunes. Le plus jeune d'entre eux, René Rosset... Il y a le témoignage dans le livre, c'est le petit Rosset.
Il est
né en 26, donc 26, quand il débarque, il a 17 ans.
Il a 17 ans,
Il y a des gens plus âgés comme Hubert Faure qui a 30 ans.
Qui
est officier. Et effectivement, là, il n'y a plus de classe sociale. Ils font tous le même job, ils sont tous commandés par le même homme. Et donc là, il y a une camaraderie. Oui. C'est ça vraiment qui les a soudés pendant ces 4 années de guerre, c'est cette camaraderie qu'ils ont retrouvée après, plus tard, dans les années 80, dans l'association qui a été créée. Donc voilà, ce sont des gens vraiment ordinaires, ça aurait pu être nos grands-parents, donc ils ont donné 4 ans de leur jeunesse, 5 ans de leur jeunesse pour ce qu'ils considèrent naturel à faire, de s'engager pour la patrie, tout simplement.
Il y a une phrase de Winston Churchill qui disait « si on ne se soutient pas par les coudes, nous périrons ». Et je trouve que c'est une très belle phrase. Oui. Alors, je rappelle le titre de votre livre aux éditions Talendier, Les hommes du commandant Kiefer, de Stéphane Simonet. Alors, le second livre, c'est Les Français dans le débarquement. Vous allez me rappeler le nom de l'éditeur.
Alors, c'est OREP. C'est une maison d'édition qui se trouve à Bayeux.
À Bayeux, des gens charmants et qui font des livres formidables. Alors, c'est un livre qui est illustré avec bien sûr des textes, avec des photos, une illustration qui est formidable. C'est un très, très beau livre. Parce que, effectivement, il y a les 150 000 hommes alliés, bien sûr, de la force alliée, mais il y a également tous ces Français qui ont rejoint la France libre, que ce soit naval, par air, par terre, par mer. Et ces Français dans le débarquement, ils sont nombreux et ils ont aussi aider les 150 000 alliés.
Exactement. Alors, après avoir beaucoup travaillé sur le commando Kiefer, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que le commando Kiefer ce 6 juin 44 en Normandie. Il y avait tous ceux qu'on a un peu oubliés encore plus et qui sont des figures anonymes du débarquement. C'est tous ces marins qui étaient à bord des bâtiments au large des côtes normandes, dans ce qu'on appelle les FNFL, les Forces navales françaises libres. Oui. Il y a tous ces pilotes, tous ces aviateurs qui commandaient des Spitfire britanniques ou américains qui étaient au-dessus des airs et qui devaient protéger les convois et bombarder les côtes en vue du débarquement, donc des marins, des aviateurs, et puis également aussi des parachutistes qui ont sauté sur, en Bretagne, donc dans la nuit du 5 au 6 juin, au moment même où les Français font la traversée de la Manche, à bord de leur bateau, chez Kiefer, on a des parachutistes qui sont envoyés sur le fameux maquis de Saint-Marcel, donc entre Vannes et Rennes.
Et
Rennes, oui. Et ces parachutistes sont les premiers aussi soldats français à toucher le sol de France, donc dès lors qu'on considère que cette opération sur le maquis de Saint-Marcel fait partie de l'opération Overlord, hein, leur mission c'est vraiment de verrouiller là, d'empêcher les renforts allemands de Bretagne vers la Normandie. Donc on confie le bouclage de cette zone en Bretagne à des parachutistes français, donc qui là aussi ont été un petit peu oubliés. Et donc j'ai voulu consacrer un livre à ces combattants, marins, pilotes, aviateurs, et puis aussi n'oublions pas à la grande division blindée qui va débarquer en Normandie le 1er août 1944, la division Leclerc.
Leclerc arrive en
terre normande à partir du 1er août 1944 pour combattre en Normandie et dans la Sarthe. Donc voilà, c'est un livre qui offre du coup un panorama de toutes les forces françaises engagées aux côtés du commando Kieffer pour la libération de la Normandie.
En fait, c'est le lien indispensable entre le commando Kieffer et ses forces françaises.
Voilà, exactement. Alors c'est vrai que le commando, c'est l'unité symbolique.
La figure de proue, on va dire la figure de proue.
La figure de proue, voilà, des combattants, troupes d'élite, mais parallèlement, il y a d'autres troupes d'élite qui sont là, en Bretagne, et puis il y a tous ces marins qui certes ne vont pas être mis en danger, ils sont sur leur navire au large des Normandes,
ils sont là.
Et les aviateurs qui auront payé aussi un lourd tribut, il y aura beaucoup de morts dans les aviateurs français le 6 juin 1944.
Alors il y a aussi la résistance qui a joué un grand rôle, qui a beaucoup aidé aussi en faisant passer des messages, en faisant sauter des trains, en posant des bombes, en piégeant des camions, les partisans, enfin les résistants aussi ont eu un grand rôle aussi.
Alors c'était pas évident, hein, c'est la résistance en Normandie, vous le savez, la Normandie n'est pas propice à la formation de la résistance, il n'y a pas de grands maquis,
il n'y a pas de grands bois, il n'y a pas de forêts, c'est des grandes plages et des dunes.
C'est de la plaine, et puis surtout, il y a une très très forte occupation allemande, hein, c'est un territoire qui est très très occupé depuis 40, donc il y a notamment le mur de l'Atlantique qui structure toutes les côtes de Normandie, et donc c'est compliqué pour des résistants de se mettre en armes, en marche, donc ça a été forcément effectivement une résistance de transmission de renseignements. On va transmettre des renseignements aux alliés, justement, sur le mur de l'Atlantique, sur la position des forces allemandes, etc. Et cette résistance normande va être complètement déstructurée à partir de la fin 43. Il y a beaucoup de rafles, de répression. Et au moment du 6 juin, finalement, elle est là, cette résistance normande. Elle fait ce qu'elle peut, mais elle est comme un peu en déroute quand même, malgré tout. Mais elle aura réussi à transmettre des renseignements. Et puis, dès le lendemain du 6 juin, effectivement, avoir cette action de sabotage de voies ferrées, de lignes de télécommunication, voilà, donc les maquis se mettent en marche, mais effectivement, c'est compliqué quand même pour elle, hein, parce que elle a été quand même largement déstructurée par la Gestapo à la fin 43, mais elle est quand même en ordre de bataille, elle va concourir à sa manière à préparer l'arrivée des alliés en Normandie. Et donc, effectivement, je parle de cette résistance normande dans ce livre.
Oui. Alors, résistance normande, finalement, alors, comme vous disiez, c'était pas facile parce qu'il n'y a pas de maquis, il n'y a pas de forêt, d'où le danger beaucoup plus réel. Mais quand on parle de la Normandie, du débarquement, il faut rappeler à nos auditrices et auditeurs que les Allemands ne nous attendaient pas vraiment en Normandie. C'est un officier allemand qui, entendant la fameuse phrase, les diables, les violons, etc., la phrase de Verlaine, a un doute, mais on n'écoute pas forcément. Mais ils n'étaient pas vraiment attendus en Normandie. Il faut le dire.
Non, effectivement, Hitler est persuadé que le débarquement aura lieu dans le Nord-Pas-de-Calais, là où effectivement la distance entre les côtes britanniques et les côtes françaises est la plus courte. Hein, donc le grand pari des Alliés, c'est de débarquer là où la Manche est la plus large. Hein, il y a 110 à 120 km de traversée entre Portsmouth et les côtes de Normandie. Et donc les Allemands, certes, ils ont fortifié la côte de Normandie, mais vraiment les plus gros obstacles bétonnés sont dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc ils sont surpris, effectivement. Surpris d'une part parce qu'effectivement les conditions météo ne permettaient pas un débarquement des Alliés. Les Alliés ont quand même débarqué dans des conditions météo très défavorables, à l'endroit où effectivement où les Allemands ont moins fortifié le Nord-Atlantique. soviétique, donc c'est une grande surprise pour les Allemands. Oui. Et puis n'oublions pas toute l'intoxication qui a été faite.
Tous les leurres,
tous les leurres, les fausses armées.
Les chars en caoutchouc, en plastique.
Les chars gonflables, voilà, les avions en bois et tout voilà, ça. Oui. Et cette opération Fortitude, puisque c'est son nom,
Fortitude, tout à fait.
On a beaucoup intoxiqué effectivement les Allemands sur le lieu et la date du débarquement.
Et même ce cadavre sur qui on a mis de fausses cartes, que les Allemands ont récupéré sur une plage, entre autres, parmi tous les leurs.
Voilà, et très très longtemps, Hitler va jusqu'à la mi-juillet, Hitler sera persuadé que le débarquement de Normandie n'est qu'un leurre.
Mais même Rommel s'est trompé aussi.
Alors Rommel, lui, voilà, c'est un autre sujet. Rommel, lui, effectivement, il était persuadé qu'il fallait repousser le débarquement des premières heures. Et donc, il y a quand même beaucoup de blindés. En fait, les blindés, il ne les aura pas.
Non, il ne les aura pas. Non. Heureusement.
Il les aura pas. Heureusement. Hitler n'a jamais voulu les donner blindés. Donc.
Oui. Heureusement qu'il ne les a pas eu, finalement.
Oui.
Heureusement qu'il a pas. En fait, Hitler était relativement tranquille. Hein. On l'a réveillé, il dormait presque. Il était.
Il dormait. Il s'est couché très tard ce jour-là, le 5 juin. Il a donné l'ordre de ne pas réveiller avant 10h du matin. Il a réveillé à 10h du matin pour annoncer que le débarquement a lieu depuis 4h.
Et Rommel fêtait l'anniversaire de sa femme.
Voilà. Alors, Rommel, effectivement, était venu faire un aller-retour pour, d'une part, fêter l'anniversaire de sa femme et surtout pour rencontrer Hitler pour lui demander une dernière fois des renforts de blindés allemands.
Oui, qu'il n'aura pas.
Rommel n'est pas là au moment du débarquement. Mais il y a plein d'officiellement qui ne sont pas là au moment du débarquement.
Oui, tout à fait.
La coïncidence.
Oui. En tout cas, c'est un très beau livre aussi chez OREP, Les Français dans le débarquement. Quels sont son projet? Je suppose que tout au long des semaines à venir, entre le débarquement en Provence, la libération de Paris, vous allez être bien occupé dans les semaines à venir.
Oui, alors peut-être ça va retomber un petit peu parce qu'effectivement, on n'est plus dans les cérémonies du 6 juin. Oui. On est quand même dans l'été 44 de la libération. Donc il y aura effectivement peut-être il y a encore pas mal de cérémonies. En Normandie, hein, ça, on oublie toujours qu'il n'y a pas eu que le 6 juin, il y a eu la bataille de Normandie.
Il y a eu après, la bataille de Normandie, ça n'est pas qu'une seule journée, ça a duré plusieurs semaines.
Exactement, et n'oublions pas, notamment à Caen, moi je suis originaire de Caen, j'étais à Caen, il y a une très très grosse cérémonie en juillet, le 9 juillet et le 19 juillet, c'est les deux dates qui sont des marqueurs pour la ville de Caen, c'est les dates de la libération des deux rives.
Faut pas oublier que c'est une ville martyre entièrement détruite à 75 ou 80%.
Exactement, c'est une ville qui a été détruite par les bombardements alliés. N'oublions pas que Caen devait être libéré le 6 juin au soir, c'est le but de Elle ne sera libérée que totalement le 19 juillet. Donc. Voilà un peu l'intensité de la bataille. Oui. Il y a 12 km entre Caen et la mer. Oui. Donc les Alliés ont mis presque plus d'un mois pour franchir ces 12 km. Donc il y a une bataille sérieuse qui se décide. Et donc tous les villages de Normandie vont être libérés au cours de cette bataille entre juillet et août. Donc il y a beaucoup de cérémonies en Normandie jusqu'à la fin du mois d'août quasiment.
En tout cas, je rappelle vos deux livres, Les Hommes du Commando Kéfer aux éditions Talandier et chez OREP, Les Français dans le débarquement. On sera heureux de vous retrouver pour un prochain ouvrage. Vous avez des prochains projets d'écriture?
C'est en cours, je ne peux pas en dire beaucoup plus que ça, mais il y a des projets pour l'année prochaine, certainement, et c'est certain, sur toujours cette thématique de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Pas forcément sur Kéfer, bon, j'ai un peu fait le tour, donc il y a beaucoup de livres qui sont sortis. Et puis, je pense que je vais plutôt m'intéresser peut-être aux femmes.
Ah, mais ça, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Eh bien, ce sera chez Talandier, chez OREP.
Ah, je ne peux pas vous dire.
Vous savez pas encore. D'accord. Ben, écoutez, le micro vous sera ouvert pour nous parler de tout cela.
Merci.
Et puis, à une très prochaine fois, Les Hommes du Commando Kéfer chez Talandier et Les Français dans le débarquement chez OREP. Eh bien, à une prochaine fois et merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Ici, voici le sixième bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux comme Ulysse a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise, un ami viendra ce soir.
Le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France.
Ici, Londres. Ceci termine notre émission de 13h destinée à l'Europe.
Notre prochaine émission aura lieu à 17h.